RCF.
Bonjour à tous. S'engager, c'est se lancer dans une histoire d'amour. Donner de soi en étant, selon l'expression de Benoît XVI, disponible à se perdre pour l'autre et lui offrir notre vie. L'engagement en famille, en couple, choisir sa vie ensemble. Voici le défi que se sont lancés Loïc et Aurélie, témoignage d'une vie pas comme les autres. L'engagement en couple, c'est l'histoire d'Aurélie et Loïc Blanchard, fondateurs de l'association Grain de Blé, avec le père Max de Guibert et de la maison d'accueil pour personnes handicapées qui s'appelle Saint-Damien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour également à Xavier Bréfey et Vianney Bélanger qui sont très très en forme aujourd'hui, membres du CLER Amour et Famille du Mans. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ils ont désiré vous inviter dans notre magazine Famille pour entendre votre témoignage de couple engagé au service des autres. Durant plusieurs années, vous avez accompagné des jeunes handicapés en séjour et vous avez été marqué par la richesse des rencontres et du partage entre des personnes valides et des personnes handicapées. Et là, vous est venue l'idée d'un projet fou. Quel est-il ?
Eh bien, l'idée, c'était simplement d'essayer d'ouvrir un jour une maison, un lieu de vie où on pourrait accueillir des personnes en situation de handicap et partager un peu de leur vie et vivre plus au quotidien ce que l'on pouvait vivre ponctuellement pendant des camps, des retraites, des pélés, de manière ponctuelle quand on était adolescent.
Ce fut facile et évident d'engager l'autre dans ce projet. Est-ce qu'il vous a fallu faire des concessions et peut-être abandonner vos projets personnels pour pouvoir lancer ce projet un peu fou ?
Abandonner, pas forcément. Les faire évoluer, oui. Moi, je...
Quelle est votre histoire, en fait ? Parce que vous avez une histoire un peu particulière, tous les deux.
En fait, on s'est connus à l'aumônerie, à Bonnétable, dans le diocèse, avec le père Max, qui était donc le curé de la paroisse. Et puis, on a, à travers ce qu'il nous a proposé, eu l'occasion de faire la connaissance avec des jeunes en situation de handicap, donc à Lourdes, au JMJ, plusieurs fois.
Et, que pendant plusieurs années, en fait, le père Max nous a parlé de ce rêve. Son rêve, c'était de voir ouvrir une maison pour des personnes en situation de handicap, des adultes. Donc les adultes qui étaient finalement les jeunes qu'on a accompagnés plusieurs années, lors des camps, etc. Et de pouvoir leur proposer, pour leur vie d'adulte, une structure adaptée.
On a un petit peu grandi avec eux, on s'est connus ados, et puis on voyait que c'était pas simple pour eux d'envisager leur vie d'adulte. Moi, à ce moment-là, je pensais faire des études de design. Pendant 3 ans au lycée, c'est ce que j'avais dans la tête. Et puis, à force de ces rencontres et de ces beaux moments, j'ai compris que ça avait quand même une place plus importante pour être heureux dans ma vie. Je me suis dit, bon, peut-être que ça peut devenir un métier. Et j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Et puis,
un jour, autour d'un café, Max nous parlait de nouveau de ce projet, une nouvelle fois. Et puis, en fait, avec Loïc, on s'est regardé. Et puis, on lui a dit, écoute, si tu veux y aller, on vient, voilà, on part avec toi.
C'est toi qui lui as dit ça. Hein. Oui. C'est elle. On est là à cause d'elle, en fait. C'est elle qui a dit, arrête d'en parler. On va y aller, on essaye.
Et en sachant que j'avais bien repéré les talents de chacun, donc Max pour le rêve du projet, donc voilà, un très beau rêve, Loïc pour élaborer le projet théoriquement et par écrit, et moi en chef des critiques pour les ajustements pragmatiques. Donc à nous trois, on a, voilà, autour du café, on s'est dit... allons-y. Et on a commencé à se mettre au travail tous les trois. Et très vite, on a été rejoints par des amis, des proches, pour faire vivre ce projet.
Il y a eu quelques moments de doute, des galères, j'imagine, un peu.
Il y en a eu beaucoup, surtout dans les 3 premières années. Donc, on a lancé cette idée en 2005. On a vraiment créé l'association qui s'appelle Le Grain de Blé en 2006. Et de 2006 à 2009, on a travaillé de manière assez austère pour écrire un projet, le présenter au Conseil Général, pouvoir obtenir un financement, un agrément, tout apprendre aussi, hein, parce que être éducateur, ça ne permet pas de devenir directeur d'une structure et encore moins de la faire, de lui donner le jour. Hein. Mais on a eu des moments à ce moment-là quand même difficiles parce que on se projetait sur quelque chose de très incertain. On avançait sans être sûr que le projet voit le jour. Donc il fallait tenir dans la distance, dans la durée. En même temps, on a eu de la chance puisque au bout de 3 ans, on a eu un avis très favorable sur le projet qu'on a présenté après avoir bien travaillé. Et donc on a pu le concrétiser avec une ouverture de la maison Saint-Damien en 2010.
En 2010, d'accord. Et vous étiez accompagné, entouré, sans doute, de vos proches?
Est-ce que vous avez été soutenu, en fait, dans ce projet dont on découvrira un peu plus en détail tout à l'heure?
Oui, d'abord très soutenu par nos proches, nos familles, par les personnes de la paroisse, et puis nos amis en situation de handicap, leurs familles, qui ont vu naître, enfin qui ont fait naître aussi ce projet et qui nous ont soutenus, chacun avec toujours pareil, hein, c'est chacun ses talents, et donc on les rassemble, et avec ça, on a réussi à construire le projet.
Ce qui est très beau, c'est qu'un engagement est vite contagieux. Donc on s'est rendu compte que voilà, Max nous avait contaminés, et puis en parlant, on arrivait à ce que d'autres gens se disent « Ah, c'est une belle idée et on va vous aider ». Alors, soit en vous apportant des compétences, soit en vous apportant un soutien financier pour le démarrage de l'association, soit simplement en vous apportant un soutien moral et spirituel, et ça c'est très important. On ne s'est jamais senti totalement seul. Il y a des moments de solitude, mais très vite on a pu se raccrocher à chaque fois à des gens qui étaient là pour nous accompagner. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est de voir que justement des gens qu'on ne connaissait pas, maintenant on rejoint cette aventure-là. On était sur la paroisse de Bonnétable à l'époque, mais la maison Saint-Damien a ouvert ici au Mans. Et de voir que sur la paroisse Saint-Aldric, il y a eu le même engouement et des gens qui nous ont rejoints, qu'on ne connaissait pas et qui viennent nous donner un coup de main bénévolement aujourd'hui, qui adhèrent à l'association ou qui font un don pour soutenir notre projet. C'est signe que ça nous dépasse aussi tout ça.
Donc nous découvrirons les multiples facettes de ce projet juste après notre première pause musicale, que d'ailleurs vous avez choisi, et vous avez choisi de nous faire partager, ainsi qu'à nos auditeurs, une chanson de Jean-Jacques Goldman, « Nos mains ». Alors pourquoi ce choix ?
Parce que la chanson dit simplement que quand on ouvre nos mains, quand on les tend vers l'autre, que ce soit vers son conjoint, vers ses amis, vers des personnes qu'on ne connaît pas, il y a des belles choses à vivre.
Retour dans votre magazine Famille avec Aurélie et Loïc Blanchard, fondateurs de l'association Grain de Blé et responsable de la maison d'accueil Saint-Damien, et également en compagnie de Xavier Bréfeuille et Vianney Bélanger, membres de l'association Claire Amour et Famille du Mans. Avant notre pause musicale, vous nous parliez d'un projet que vous avez décidé de concrétiser ensemble, en couple. Quel est-il ce projet ? Maintenant, nous rentrons enfin dans les détails de ce projet.
Eh bien donc, la maison Saint-Damien qui a ouvert ses portes en septembre 2010, c'est un lieu de vie et d'accueil. C'est une petite unité de vie. Alors, ce lieu de vie et d'accueil, c'est vraiment un statut très, très atypique. On est le premier et le seul dans la région des Pays de la Loire à accueillir des adultes en situation de handicap. Donc, sur ce modèle d'une structure où vivent en fait 7 résidents. Donc, c'est tout petit. C'est à l'échelle d'une vie de famille, d'une grande famille, avec plusieurs spécificités. La mixité des handicaps, puisqu'on accueille des personnes qui, pour certaines, ont un handicap moteur assez lourd et qui sont au quotidien avec nous ou dans des activités extérieures. et 4 personnes qui ont un handicap mental, une déficience intellectuelle légère ou moyenne, mais qui par contre peuvent travailler dans un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, donc c'est ce qu'on appelait les CAT. Et on a cette mixité des handicaps qui est rendue possible parce qu'on est dans un modèle très souple, qu'on fonctionne sur une vie la plus ordinaire possible. Souvent, je dis...
C'est quoi une vie ordinaire quand on vit avec des personnes
C'est la même que vous et moi. Ça veut dire qu'on mange ensemble, on cuisine ensemble, on fait les courses, on fait le ménage. Après, avec les limites de ce que chacun peut ou ne peut pas faire, et on est là aussi pour accompagner, pour aider. Mais souvent, je dis qu'on est un petit établissement qui ne ressemble pas, qui ressemble d'abord à une maison. Il n'y a pas la barrière institutionnelle quand on arrive. On rentre dans une cuisine ouverte avec une salle à manger, la maîtresse de maison qui est en train de préparer le repas, les résidents qui sont là et qui partagent ce quotidien.
Alors, du coup, le lien que vous partagez avec les personnes en situation de handicap dans votre maison, vous pouvez la qualifier plus quoi, de lien parent-enfant, de lien ami, de lien de compagnon de route.
Le terme de compagnon de route est peut-être le plus approprié. On est des accompagnateurs. Après, on a un statut professionnel, puisque pour accompagner ces 7 résidents, nous avons une équipe de 5 salariés, qui sont tous des professionnels formés, diplômés, et parce qu'il faut des compétences spécifiques pour délivrer, j'aime pas forcément ce terme-là, mais quand même une prestation de qualité, puisqu'on est quand même une structure qui rend le même service qu'un établissement plus classique que l'on peut connaître pour accueillir des personnes handicapées. Et on veut tenir cet équilibre entre être une structure très professionnelle qui accompagne les gens de manière sérieuse et en même temps dans un esprit familial et avec des liens d'amitié possibles. Donc on est aussi des amis malgré tout.
Mais c'est quand même une structure qui est de toute manière un peu médicalisée quand même. Enfin...
Alors on a l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile qui vient pour assurer la toilette des résidents qui ne peuvent pas se laver seuls. Et après, nous, on peut aussi au quotidien accompagner sur un passage aux toilettes, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire tout seul, pour les coucher le soir. Mais on n'est pas une structure médicalisée au sens propre, puisqu'on a des gens qui ne sont pas, malades, ils sont... avec un handicap parfois lourd, mais très bien portant, qui communiquent très bien et qui peuvent avoir une vie finalement assez ordinaire. Et on essaie de leur rendre la vie la plus normale possible.
Vous avez parlé de grande famille, compagnons de route, c'est cette grande famille. Mais dans votre vie de famille à vous, on va dire plus réduite, vous avez 2 enfants, 2 garçons. Quand on vit au cœur d'une telle maison, c'est pas toujours facile, j'imagine. Comment vous le vivez ?
Alors c'est vrai que pour ce qui concerne Loïc, il est à la fois professionnel et à la fois ami et voisin, puisque nous vivons dans une maison où on partage en fait la même cour que la maison Saint-Damien, avec des temps partagés, donc clairement identifiés pour certains, des soirées, des dîners. On partage les fêtes d'anniversaire et on partage aussi des sorties le week-end, des temps festifs et puis des temps de jeu, enfin tous les temps quotidiens. Avec nos 2 enfants, donc nos 2 garçons, qui grandissent depuis 4 ans à côté de la maison, et avec les résidents à leur côté. Pour eux, ça a été aussi une découverte, la découverte des personnes en situation de handicap. Mais ça a été, ils font vraiment partie de notre famille agrandie, et c'est une source de beaucoup de richesse à la fois pour nous et aussi pour les résidents qui se disent très joyeux de les voir courir dans la cour et qui savent aussi leur dire que pour des enfants, il faut quand même beaucoup de bruit.
Aurélie travaille ailleurs. On travaille pas tous les deux, donc on habite sur place, mais ça donne aussi une ouverture. C'est pas qu'on voulait pas travailler ensemble, ça aurait été un autre défi à relever. Mais par contre, elle est administratrice, donc bénévole au sein de l'association. Et ça aussi, c'est quand même un gage d'équilibre, parce que c'est pas difficile en soi. On est des voisins très proches. On est intégré dans un ensemble qui est un bel endroit, hein, parce que c'est un ancien couvent qui se trouve dans le quartier des Maillets. Et qui pour partie a été transformé en résidence étudiante. Donc on vit aussi dans un lieu où autour de nous, il y a 80 étudiants presque qui habitent là. C'est un lieu où beaucoup de gens se rencontrent. On a des voisins aussi à côté qui sont charmants, des liens avec le quartier. Donc on est un lieu de vie où beaucoup de choses se partagent entre nous, mais aussi d'ouverture. Et pour notre vie de famille, c'est très important de ne pas être que dans ce lieu-là tout le temps et d'avoir aussi notre ouverture sur l'extérieur.
Et ça permet aussi une transmission à nos enfants, c'est-à-dire qu'après avoir, que Max nous ait contaminés, on a permis à nos enfants de découvrir les personnes en situation de handicap, et c'est une découverte de laquelle on se réjouit un peu chaque jour de les voir.
Est-ce que c'est un choix des résidents de venir dans cette maison ? Pourquoi plus cette maison qu'une autre, puisque on pourrait très bien comparer votre structure d'accueil à une autre structure qui est l'Arche ? Quelle est la différence, hormis que ça soit une maison de famille, comme vous le dites, à taille réduite ? Qu'est-ce qui fait la différence ?
Sur les motivations des résidents à venir là, et peut-être en comparaison à d'autres établissements, et pas forcément à l'Arche, en général, il y a deux points majeurs. Il y a l'idée qu'on ait une petite structure à l'échelle familiale. Par exemple, les parents des résidents nous disent, quand on vient rendre visite à nos enfants, qui sont des adultes, mais on vient les voir, on ne rentre pas dans un hall où une secrétaire nous accueille. On est chez eux, et c'est eux qui nous accueillent. D'ailleurs, moi, je trouve souvent qu'on se sent, nous aussi, invités chez eux. On ne possède pas ce lieu. Et peut-être ce qui fait aussi une spécificité, c'est la dimension chrétienne. C'est-à-dire que le Grain de Blé est une association fondée sur des valeurs chrétiennes qui propose de ce fait-là une attention particulière donnée à la vie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on accueille que des personnes qui sont catholiques pratiquantes. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les salariés, pour les bénévoles, pour les volontaires du service civique que nous engageons. Là, il y a une diversité. Mais c'est une des motivations pour certains résidents de venir parce qu'ils savent que dans ce lieu-là, on pourra leur permettre d'aller à la messe si c'est leur souhait, de pouvoir participer au temps de prière qui a lieu dans la chapelle le jeudi soir. Alors la différence avec l'Arche, d'abord, on ne se définit pas comme une communauté, ce qui est une des spécificités des communautés fondées par Jean Vanier. Mais on dit souvent qu'on est des petits frères de l'Arche. On est vraiment inspirés et Jean Vanier est quelqu'un qui nous a ouvert la voie, qui nous a appris énormément. Après, on n'a pas souhaité s'affilier à la Fédération de l'Arche parce que, historiquement, l'Arche était d'abord dédiée au handicap mental et que nous accueillons aussi des personnes qui ont un handicap moteur. Et on voulait que le Grain de Blé soit une association autonome pour pouvoir faire le projet le plus adapté aux personnes qu'on accompagnait.
On va se retrouver dans quelques instants après notre seconde pause musicale et vous nous expliquerez pourquoi ce choix de musique.
Je m'en fous, ce mariage me désole. Mais je me trouve un bonheur, c'est te voir danser des heures comme jamais. Je ne saurais, est-ce ta grâce ou l'alcool qui me font croire que tu décolles. Juste mon verre à la main, j'écoute passer les refrains toute la nuit. Je t'envie. Danse, oui, danse, fais comme si j'étais pas là. Quelle chance de te voir danser comme ça. Danse, oui, danse, et mes yeux dansent avec toi. Vas-y, danse devant moi qui n'ose pas. Y'a Elvis en playlist. Tu m'attrapes et me jettes sur la piste. Alors je ferme les yeux, je me prends pour lui un peu en moins classe, mais ça passe. Danse, oui, danse, fais comme si j'étais pas là. Quelle chance de te voir.
C'était Danse de Hall de Laf, choisi par nos invités Aurélie et Loïc Blanchard, fondateurs de l'association Grain de Blé et de la maison d'accueil Saint-Damien. Vous nous racontiez que vous étiez engagé dans ce projet de monter une structure d'accueil de petite taille pour accueillir des personnes handicapées et vous êtes engagé alors que vous étiez en couple et aujourd'hui vous avez donc deux enfants. Selon vous, c'est une volonté qui s'éduque tôt ? Est-ce que c'est tout petit qu'on apprend à partager et à s'engager ?
Oui, et en même temps, ça s'éduque pas, ça se vit. Donc voilà, c'est un peu le clin d'œil à la chanson qu'on vient d'entendre finalement. C'est on se laisse entraîner. Nos enfants se laissent entraîner, comme dans cette chanson, Hold the Love, c'est un clin d'œil, puisque c'est aussi un ancien animateur de monnerie comme nous. Mais ils se laissent entraîner sur la piste pour danser, alors qu'en fait, ils n'osent pas. Et c'est simplement une relation tout à coup d'amour, je crois, qui fait qu'on dépasse ça. Moi, je serais resté incapable de danser en public si ce n'est pas Aurélie qui m'y avait invité, et on ne serait peut-être pas là aujourd'hui avec ce projet si elle ne m'y avait pas encouragé. Je crois qu'on se dépasse par l'autre et grâce à l'autre. Et c'est ce qu'on vit avec nos enfants. Je crois qu'ils n'ont pas conscience, eux, du handicap. C'est assez naturel et ça se fait parce qu'on les entraîne, parce qu'on les invite. Vous disiez tout à l'heure dans l'introduction la parole de Benoît XVI qui nous invite à se perdre pour l'autre. C'est aussi se perdre avec l'autre. C'est vraiment dans le partage. que ça se vit.
L'engagement, c'est aussi et surtout un appel. Ça me rappelle un passage de l'évangile de Matthieu où il se laisse appeler pour s'engager à la suite du Christ, car en effet, chaque être humain est appelé à une vocation particulière. Alors, ça a été un appel aussi pour vous, à un moment donné dans votre vie ?
Alors, c'est vrai qu'à posteriori, on se dit qu'effectivement, on était là pour ça, on était prêt ou pas, mais en tout cas, on y est allé à ce moment-là. Mais vraiment, sur le coup, quand autour du café, on s'est dit « maintenant, on y va », je ne me suis pas dit « allons-y, nous sommes appelés, soyons sereins », non, pas du tout. Un petit peu insécurisé, un peu fou sans doute. On s'est lancé. Tous les deux, en couple, auprès de Max.
C'est après qu'on prend conscience des choses. Qu'on se dit, bah, si ça s'est fait, c'est peut-être pas pour rien. Si on en est là, c'est pas pour rien. Et quand on avance, au fur et à mesure du chemin, il y a des signes qui viennent confirmer que, il y a peut-être quelque chose qui, effectivement, nous dépasse et qui nous précédait dans cette aventure-là.
En fait, vous êtes un peu une famille missionnaire avec toute l'humilité qui vous caractérise et qui se voit. Aujourd'hui, quand on parle de famille missionnaire, on voit beaucoup de familles qui partent à l'étranger, qui partent loin, où il y a du voyage, où il y a de la distance. Et finalement, avec des missions comme les vôtres, comme le grain de blé, des missions dans les cités, comme peuvent faire le Rocher, on voit que finalement, on peut peut-être être missionnaire sur place, en éduquant, donc en vivant comme vous au milieu des situations difficiles. Est-ce que vous auriez un conseil ou une petite pépite pour les familles qui voudraient goûter à ça ou qui se posent la question et qui souhaiteraient peut-être s'orienter vers un peu une mission et une disponibilité aux autres?
Alors d'abord, peut-être que la vie de couple et la vie de famille, c'est déjà un engagement important et auquel il faut consacrer du temps, de l'énergie et de la joie. Et puis après, on peut avoir d'autres engagements qui peuvent avoir des mesures très, très différentes, avec des implications qui vont de choses très simples, très momentanées, à un engagement plus fort en couple ou pas.
Oui, et puis je crois que c'est aussi juste répondre, se laisser toucher. C'est pas « je vais m'engager, je prends la décision, demain je m'engage ». C'est un jour, on ressent quelque chose, il faut juste accepter de se laisser toucher parce qu'on est en train de vivre, et ouvrir ses mains. Être prêt à accueillir, être prêt à aller vers l'autre. On a beaucoup besoin de fraternité aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou pas. Et je crois qu'il y a plein de petits gestes dans le quotidien qui peuvent changer la vie si on n'a pas conscience que c'est un engagement. Mais en fait, c'en est un quand même. C'est accepter l'autre, accueillir l'autre, aller vers lui. Et puis, si on est en couple, on le fait avec son conjoint. C'est-à-dire aussi qu'on accueille son conjoint et qu'on va vers lui.
Donc en fait, la joie se partage. Ah oui, la joie se partage.
Surtout sur RCF.
Surtout sur RCF. Partage.
Juste une dernière question qui nous vient de Nicolas B. C'est une question Facebook RCF 72. Quel regard porteriez-vous sur un couple sans engagement? Et peut-on vivre finalement sans engagement?
Mais si c'est un couple, il y a déjà un engagement. Voilà.
C'est ce qu'on s'est dit.
Et c'est le départ de beaucoup de belles surprises.
Merci pour ce beau témoignage de foi et d'espérance. Bon courage dans votre mission et à bientôt.
Merci.
Au revoir.